Bienvenue dans la série spéciale « Développeurs en 2039 ». Mon but est de te faire réfléchir à notre monde d'aujourd'hui en se projetant dans l'avenir. Cette série comporte 20 épisodes que je t'invite à suivre dans l'ordre. Prêt ? C'est parti ! Dans l'épisode d'hier, nous avons vu qu'une IA générale n'était pas pour demain. On commence à peine à y travailler et rien n'indique sérieusement qu'on trouvera une solution pour le faire. Donc l'IA va jouer encore un rôle très spécialisé pour le moment. Malgré tout, il est fort à parier qu'on va en voir de plus en plus et dans tous les composants de notre vie. Du smartphone au micro-ondes en passant par les compteurs d'électricité et les frigos. Si l'IA est vouée à se développer et notre société en dépendre de plus en plus, résisterait-elle à une décroissance énergétique? Cette question de l'énergie m'obsède. À quoi peut ressembler non seulement notre monde, mais aussi notre métier dans un contexte limité en énergie? En effet, il est fort à parier qu'on va connaître des problèmes d'approvisionnement dans les années à venir. Le pic de pétrole conventionnel est maintenant dépassé. C'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. Le pétrole de schiste, qui prenait le relais, est à bout de souffle, tant sur le plan de la disponibilité que surtout sur le plan économique. C'est juste pas rentable. Je ne parle même pas des dégâts écologiques démentiels que cela génère. Bon, ça, visiblement, ça ne préoccupe pas tellement les industriels. Et si tu crois que ce sont les éoliennes ou les panneaux solaires qui vont nous sauver, je t'invite à écouter Jean-Marc Jancovici sur YouTube. Il a une conférence assez incroyable qu'il a donnée à l'école des mines. Et puis, il donne plein d'autres conférences, il y en a pour tous les goûts et toutes les tailles de temps disponibles. Bref, on peut raisonnablement tabler sur une réduction de l'approvisionnement énergétique. Quel en serait l'impact sur les travaux en intelligence artificielle? L'IA a-t-elle sa place dans un monde restreint? En particulier, quelle est la consommation d'énergie induite par l'intelligence artificielle? Pour répondre à cette question, je suis retourné voir notre ami Olivier Philippe, qui a totalement retourné mes croyances de néophyte. Bienvenue dans l'épisode 5 de la série Développeurs en 2039. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Philippe. Olivier, bonjour.
Bonjour Benoît.
Dans le dernier épisode où on parlait d'intelligence artificielle et toujours dans la perspective de se projeter un petit peu dans l'avenir en 2039, tu me disais... Parfois, on intervient dans des boîtes, elles ne stockent pas forcément la donnée alors qu'elles auraient pu le faire. C'est un coût de stockage qui est nul. Et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que le coût de stockage financier est peut-être infime, mais quel est l'impact énergétique au niveau global de tout ça? Parce que ce soit l'intelligence artificielle en soi, dans les traitements qui sont quand même intensifs et tous les volumes de données qu'il faut stocker, parfois backupper, est-ce que tu crois que c'est vraiment... Quand tu dis coût de stockage nul, c'est un coût financier? Tu parles de quel type de coût, en fait?
Surtout financier, effectivement. Donc, c'est d'ailleurs de là, en fait, que vient en fait, ce qui a été juste avant l'IA. L'ère de l'IA, c'était le big data. C'est comme ça, terme pas très, très bien défini. Tout ce qu'on a d'intéressant à regarder dans le big data, c'est qu'il portait bien son nom, c'est de la grosse donnée, d'accord? D'où ça venait, c'était pas forcément sur la donnée qui était créée, mais c'était les données stockées. C'est parce qu'on avait accès à beaucoup plus de données, tout simplement parce que le prix de stockage, tout simplement en disque dur, est beaucoup moins cher maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, quand l'IA existait déjà, et qu'on avait à peu près les mêmes types d'algo d'ailleurs, on n'avait pas assez de données stockées pour les entraîner. Voilà. Donc c'est ça en fait qui fait la différence. C'est le prix au méga ou au giga ou au téra maintenant qui devient minime.
Ok, donc ce que tu dis, c'est que le coût marginal unitaire de loqué devenant infime, voire en fait aujourd'hui quasiment nul, ça a permis l'émergence de cette nouvelle génération d'intelligence artificielle. Mais quel est quand même malgré tout le coût énergétique de l'intelligence artificielle?
Alors, le coût énergétique, en fait, il n'est pas sur le stockage, il n'est pas trop sur le transfert parce qu'on ne transfère pas tant de données que ça, en fait. Beaucoup moins, en fait, le plus gros coût actuellement énergétique, il est dans le transfert de streaming, entre autres. D'accord, c'est ça, en fait, qui coûte très cher énergétiquement parce qu'il y en a énormément. Donc, l'IA, en fait, là-dessus, non. Par contre, là où on a un coût énergétique qui fait très élevé, c'est quand on entraîne des modèles. Donc, l'IA, en fait, c'est gros. Et en fait, si on veut parler exactement, parce que l'IA, c'est le terme à la mode, le terme un peu hype, la technologie qui est en dessous, en fait, qui est une partie de l'IA, mais qui est la partie que tout le monde, en fait, quand on dit IA, ben, on pense derrière autre chose, sans le savoir, c'est machine learning, c'est l'apprentissage automatisé, c'est-à-dire, en fait, de faire apprendre à la machine quelque chose. De faire reconnaître des sons, reconnaître des images, reconnaître une série temporelle, peu importe.
Donc toi, tu élimines le coût de stockage, tu dis non, ça, il est quasiment négligeable. Pourtant, tu vois, je lisais une étude qui datait d'un an ou deux. Les gars s'étaient amusés à calculer le coût carbone du stockage d'un email. Et c'était pas infime, hein. Il y avait quand même des, les serveurs y tournent, il y a quand même de l'énergie qui est consommée. Mais toi, tu dis c'est rien comparé au coût de processeur, à l'énergie consommée par un processeur dans les phases d'entraînement, quoi.
GPU, en fait, on est sur des processeurs graphiques.
Ah, GPU plutôt. Ouais, d'accord. Ouais.
Voilà. Okay. Mais peu importe, on va donner en fait d'un ordre d'idée réellement, en fait, avec des chiffres, ça en fait combien on consomme. C'est excessivement faible le coût de stockage de quelque chose. Tout simplement, quand on lit en fait un article, très souvent, ce qu'il va regarder, c'est sur un serveur. Tout dépend quel serveur. Si on prend en fait un serveur à la maison, ça peut coûter cher parce que énergétiquement, c'est pas très rentable. Si on prend maintenant des serveurs, justement, en fait, des grosses boîtes, tous les serveurs GAFAM, entre autres, ceux de Google, qui sont les plus les mieux faits en fait en termes de énergétique, c'est-à-dire que c'est eux qui consomment le moins d'énergie en dehors de tout ce qui est énergie pour faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire en fait l'énergie de calcul, l'énergie de stockage, etc. Ce qui représente en fait la moitié, grosso modo, même un peu moins, la plupart du temps, chez tous les autres, de l'énergie nécessaire en fait pour faire tourner un data center. Le plus gros de l'énergie, c'est l'énergie de refroidissement. C'est-à-dire en fait, c'est la clim qui coûte plus cher que le reste.
Ah ouais. Voilà. Ah ouais, d'accord.
Oui, donc la clim,
ce qui donne un ordre d'idée quand même de ce que ça dégage comme puissance énergétique, quoi.
C'est ça, voilà, exactement. Et donc en fait, le problème, il n'est pas de stocker des emails qui sont en fait que là, l'ordinateur, il pourrait ronronner, on pourrait mettre quelque chose qui consomme absolument rien en chaleur, etc. C'est tout le reste qui consomme. En fait, c'est
quand on fait. Dans leur coût, c'est ça qu'ils intègrent. Ils intègrent le coût total de run d'un data center. Ils le ramènent à l'octet ou à l'email ou j'en sais rien à quoi.
Le problème, c'est que fait le data center? S'il fait que de stocker, en fait, il a un coût qui sera négligeable. En fait, il a même presque pas besoin de clim, tellement.
D'accord. Okay,
et en fait,
d'accord.
S'il fait pas que de stocker, il a pas un coût négligeable. C'est ça, en fait.
Et du coup, alors, pendant que tu entraînes ça coûte quoi d'entraîner un algo? L'heure d'algo, ça consomme combien?
Alors, tout dépend bien sûr ce qu'on met derrière, bien sûr, mais sur des très gros algorithmes, donc quand on parle très gros algorithmes, ça peut être de la reconnaissance visuelle ou la reconnaissance en fait de speech to text, c'est-à-dire en fait de passer de la parole vers du texte, d'accord, et ensuite la compréhension de ce texte-là, puis de faire autre chose avec. L'entraînement de ces modèles-là, qui sont des très très gros modèles, prennent beaucoup de temps et sont faits sur des machines qui sont faites sur des moitiés de data centers des fois. Ouf. Donc voilà, c'est vraiment très gros. Alors, pour donner une idée, par exemple, on parlait dans le précédent podcast d'AlphaGo, qui est le programme qui a battu donc Lucidou, qui est un des meilleurs joueurs au monde de Go. Ce programme a tourné pendant 3 mois. 3 mois non-stop. C'est-à-dire qu'on a fait tourner des machines et beaucoup de GPU pendant 3 mois.
Mais combien, voilà, j'allais dire, c'est ça la question, c'est combien de machines ont tourné derrière?
Alors, en fait, on estime que c'est à peu près 50 000 kilowatts, donc 50 mégawatts qui ont été utilisés, ouais.
Il a fallu peut-être 50 mégawatts pour entraîner AlphaGo, c'est ça?
C'est ça, c'est à peu près ça.
Et là, on parle que de la phase d'entraînement. On ne parle pas de toute l'énergie passée sur les ordinateurs, des développeurs, des ingénieurs, des data scientists qui ont travaillé en amont. On parle vraiment que de la phase d'entraînement.
Oui, mais pareil, c'est pas énorme par rapport à la... En fait, une phase d'entraînement, c'est ça qui va effectivement pomper énormément d'énergie. Mais vraiment énormément, simplement parce qu'on va faire tourner... En fait, l'ordinateur va tourner en permanence et va tourner en fait. Donc, les GPU vont être utilisés quasiment à 100%. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de boîtes, en fait, Google en premier, hein, enfin pas en premier, mais hein, parmi les premiers, se dirigent vers d'autres types de puces. En fait, Google a sorti il y a donc maintenant 3-4 ans des TPU, Tensor Processing Unit, qui sont en fait non pas les puces les plus puissantes pour faire de l'IA, donc pour fabriquer les modèles, mais qui sont les puces qui consomment le moins. En fait, pour faire de l'IA.
Donc, en gros, ce qui est intéressant, tu vois, parce que je suis en train de... Pendant que tu me disais ça, j'ouvrais mon application de... Chez moi, j'ai des panneaux solaires, donc j'ai une appli de monitoring, donc ça me permet de prendre conscience de ma consommation. Et avec une grande maison, pour une grande famille, avec plein d'enfants, une piscine, et cet hiver, on a dû chauffer un petit peu à l'électrique, on consomme à peu près 10 mégawatts. Donc, ça veut dire que pour juste la phase d'entraînement, il a fallu 5 ans d'énergie d'un foyer bien rempli, quoi.
Oui, ça peut donner ce genre de... Effectivement, ça
et
peut,
toi,
ça
sur les algos ça. Que tu utilises, toi, sur, c'est quoi les durées typiques d'entraînement et c'est quoi les CPU que tu mets en fait?
Alors, on passe à la phase de prototyping. En fait, quand on lance vraiment en fait, les derniers ou le dernier entraînement, ça peut aller de quelques heures à quelques jours.
Et il y a combien de CPU qui tournent derrière, enfin, de GPU, pardon.
Donc, toujours pareil, voilà, c'est plutôt des GPU. Donc, ça va de 1 à 8 cartes graphiques, on va dire, qui tournent. Ça peut être des petits, quelque chose qui va durer 2-3 heures sur un PC qu'on peut avoir à la maison quasiment et qui consomme à peu près du 400-500 watts. Ce qui est déjà pas mal, hein. En permanence, là, par contre, c'est 500 watts.
Que 500 watts pour alimenter 4 cartes graphiques trapues ?
Non, là, c'est une. Okay. Là, c'est pour une carte graphique. Et en fait, ça va jusqu'à entre 5000 et 10000 watts, en fait, si on utilise entre 4 et 8 cartes.
Waouh. Et donc, le dernier entraînement à 8 cartes que tu as fait, il a duré combien de temps ?
Il a duré 42 heures.
Donc, ça veut dire que tu as mangé 10 kilowatts pendant 42 heures, quoi.
C'est ça.
Un demi mégawatt, 500 kilowatts.
Donc, effectivement, oui, c'est pas neutre. sur la...
Ah, ouais, c'est pas neutre du
c'est
tout.
C'est vraiment pas neutre. Mais c'est cette partie-là qui est. Donc, on est vraiment en deux parties. La partie, en fait, ce qu'on appelle l'inférence ou de production, c'est-à-dire une fois que l'algorithme il est fait, ça demande un tout petit peu de puissance, oui, mais c'est vraiment très faible. En fait, c'est la partie d'entraînement où on va en fait repasser sur des données des milliers, des milliers et des milliards de fois. En fait, on fait en plus deux passes, une passe vers l'avant, une passe vers l'arrière. La passe vers l'arrière, c'est pour apprendre, justement. La passe vers avant, c'est exactement la même qu'on fera en inférence. Voilà. Donc, je veux détecter quelque chose dans une image, ben, je fais juste une passe vers l'avant et j'ai fini. Si je veux en fait apprendre ce que j'ai dans l'image, il m'en faut 15 millions. Je vais passer sur ces 15 millions peut-être 1000 fois et je vais faire une passe vers l'avant, une passe vers l'arrière. Donc, en fait, on voit la taille en fait, qui est vraiment disproportionnée par rapport à quand on utilise une fois en fait, dans son téléphone. Par contre, dans son téléphone portable.
Oui, voilà, j'allais dire une fois que, par contre, dans l'usage, ça ne consomme pas grand-chose. Une voiture, par exemple, qui est équipée de tout un système d'intelligence artificielle d'assistance au pilotage, elle va pas. Est-ce que tu penses que ça, par rapport à l'énergie qu'il faut pour mouvoir les roues et mettre en mouvement le machin ?
Oh là, rien du tout.
Ah ouais, d'accord, c'est insignifiant.
Rien du tout. Ah, insignifiant, complètement. Ouais, c'est très très faible en fait. Même une voiture autonome, ça consomme presque rien. L'IA en fait de la voiture autonome ne consomme presque rien.
Pourtant,
pas
elle est bardée de capteurs, elle génère des millions d'infos à la seconde.
Mais c'est presque rien en fait en termes d'électricité. C'est vraiment très faible. On est vraiment sur des capteurs en fait qui consomment rien. C'est-à-dire, c'est le capteur, c'est une caméra de téléphone portable, mais elle en a 10. C'est un lidar, c'est des choses comme ça. Ça consomme pas beaucoup. Et puis la puissance qu'il faut pour le traiter. Justement, ce n'est pas énorme. Voilà. Ça consomme quelques watts. Des fois, ça peut monter vraiment grand maximum. Ça va consommer 100 watts, mais c'est le bout du monde. Très souvent, c'est très inférieur à ça. C'est plutôt aux alentours des 10-15. Quoi.
Donc, ah non, oui. Ça, c'est. 10-15 watts, pour se donner un ordre de grandeur, c'est quoi ? C'est un MP3, c'est une petite ampoule.
Oui, c'est ça. Des ampoules, oui, ça peut être ça. Une ampoule un peu moyenne, quand même, non, parce que maintenant, elles sont. Un peu plus faible. Il y a du 6 ou 7 watts qui éclaire déjà bien, donc voilà. Mais c'est deux ampoules, quoi, donc c'est pas beaucoup.
Ouais, non, vraiment, c'est ça, moins que les phares, quoi, en fait.
Oui, ah oui, c'est clair et net. Il n'y a pas photo là-dessus. Oui, tout à fait. Okay. Non, on, sur la consommation, donc en inférence, ça reste très, très raisonnable. Justement, c'est pour ça qu'on peut le mettre dans un téléphone portable, c'est pour ça qu'on les met dans de l'embarqué, etc. Donc tout ce qui est embarqué, on peut le faire et ça pose pas trop de problèmes. Même quand on a des fois des très très gros modèles qui peuvent pas être embarqués, on arrive la plupart du temps à fabriquer des modèles en fait plus petits. On perd un tout petit peu en performance certes, mais qui peuvent rentrer dans de l'embarqué. Il y a aussi tout un pan de recherche là-dessus pour quand on a un gros modèle, bon parce qu'on l'a entraîné sur des grosses machines et on veut essayer de le diminuer tout simplement en fait de le faire maigrir. Parce que ça suffit en fait. S'il maigrit, on va consommer moins quand on l'utilise et on va prendre moins de temps. C'est complètement lié, les deux. Donc, il faut juste, en fait, le diminuer un petit peu. Et on le prune, ce qu'on appelle, donc, comme un arbre, et en fait, on lui enlève des morceaux. Voilà. Plus, il y a d'autres techniques aussi pour pouvoir, en fait, faire en sorte qu'il devienne plus petit sans trop perdre de performance. On a toujours une toute petite perte, mais on la minimise. Voilà, on minimise la perte et on essaie de maximiser la perte de poids
un petit peu les compromis, voilà, qu'on peut avoir sur les compressions, quoi.
C'est exactement pareil, tout à fait. C'est exactement. C'est-à-dire, on peut considérer que c'est une compression. Le but étant pas, par contre, de justement juste le comprimer pour le décompresser, et c'est le comprimer pour dire en fait voilà sa forme entre guillemets minimale. C'est-à-dire qu'en dessous on perd trop de performance, donc on peut pas descendre en dessous.
Bah écoute Olivier, c'était super intéressant. Je te remercie pour tout ça. Si les gens veulent en savoir plus sur O2Compte, ils peuvent venir où ?
sur le site d'Odecante, déjà, donc www.o2qunt.com. Et sinon, en fait, je pense qu'on on leur enverra une petite. Sur ton site, on mettra une petite page, en fait, avec quelques liens intéressants.
Avec grand plaisir. Je te remercie, voilà. Olivier, d'être venu aujourd'hui.
Ben, ça fait un plaisir pour moi de partager. Au revoir.
Au revoir.
Donc, si je résume, faire vivre une IA coûte peu d'énergie. Par contre, entraîner une IA est particulièrement énergétivore. Donc, dans un monde qui va vers des ressources limitées, en particulier en énergie, on pourrait très bien avoir des IA déjà entraînées. On pourrait imaginer un monde dans lequel les IA sont en place mais ne peuvent plus se développer. Un peu comme un état technologique figé. Ça me donne l'image d'une humanité qui aurait des outils qu'elle ne serait plus capable de faire évoluer. Bon, ok, ça c'était pour l'intelligence artificielle. Mais si on parle du boulot plus classique de développeur, quel pourrait être l'impact de ressources limitées sur notre travail? J'échangerai sur cette question demain avec Jean-Baptiste Dussault. Et ce que j'aime chez lui d'ailleurs, c'est qu'il a comme toujours des opinions bien marquées. D'ici là, je t'invite à nous rejoindre dans la communauté des artisans développeurs sur artisandeveloppeur.fr et maintenant, place à la fiction qui nous projette en 2039. À demain.
Papa, tu me racontes une histoire?
Ah non, je suis crevé. J'ai vraiment passé une sale journée au boulot.
Allez, s'il te plaît, papa.
Bon, allez, d'accord, ma petite princesse. Tu veux quelle histoire?
Celle-là.
Ça sort d'où, ça?
Je l'ai trouvée chez mamie la semaine dernière. Tu sais, dans le grenier. Elle m'a dit qu'elle te le racontait quand t'étais petit.
Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. J'aimais bien cette histoire.
Papa, pourquoi le ciel est tout bleu dedans?
Ah, ça, c'était avant que les adultes mettent en route la géoprotection. Le ciel était tout bleu. Mais depuis, le nuage qui protège Atlantis du soleil rend le ciel tout rose. T'aimes bien ça, le rose, toi, non?
Oh oui, ça me plaît.
Allez, je te lis l'histoire et je file me coucher. J'ai une dure journée qui m'attend demain.
Pourquoi?
Faut que je dise à mon chef que je suis pas d'accord avec lui.
Ah, il est gentil, ton chef?
Ouais, pas trop.
Ouais, c'est comme Chloé. Elle m'a donné un coup de pied, du coup je lui ai dit qu'elle était plus mon amie.
T'as raison. Moi, c'est un peu pareil. C'est juste un peu plus compliqué. Bon, alors cette histoire. Il était une fois une jeune fille qui allait chez sa grand-mère, lui a apporté une miche de pain et un pot de...